Loïc Minéric, bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous rencontrer. Donc l'objectif de l'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est évidemment la préparation du deuxième tour des élections municipales pour lesquelles vous êtes qualifié pour le second tour. Donc il y aura sûrement quatre listes dont la vôtre, donc avec des chances raisonnables d'avoir des élus, et ensuite tout dépendra du nombre. Alors, je dis quatre listes parce que il y a eu une démarche un peu surprenante de la part du député Bruno Fuchs, dont on peut se poser la question de quelle est la motivation profonde, quelles sont les ambitions ultérieures, mais qui était en quelque sorte, donc Bruno Fuchs, Modem, proche de la majorité présidentielle, qui a appelé à une liste, enfin à une union sacrée à Mulhouse après le Covid, etc. Donc en gros, aimons-nous Folleville et votre réponse a été claire et nette, disant non, nous, c'est pas, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Quelle est votre motivation de base pour, non pas rejeter, mais pour répondre à Bruno Fuchs et à sa proposition?
Alors, quand on a été interpellé effectivement par Bruno Fuchs, par voie de presse interposée, il faut quand même le souligner au passage, c'était pas la même démarche hein, que de lui répondre directement sur son adresse mail de député, comme nous on en a pris l'initiative. On a tout de suite vu le piège qui était d'une certaine façon tendu par le député. Déjà, on l'a interprété de manière très simple. C'était finalement une attitude de sauve qui peut. C'était une attitude de la part de Bruno Fuchs, une manière de prendre de la hauteur, de se poser un peu en sage par rapport à la situation qui est celle de Mulhouse et par rapport à la donne politique qui résulte du premier tour du 15 mars des élections municipales. Donc voilà, on a déjà fait cette analyse et ensuite il a fallu effectivement répondre quand même, parce qu'une interpellation publique, ça mérite réponse, et ça mérite surtout réponse argumentée, sans animosité, sans attaque à nominem, parce qu'on n'a rien à reprocher à la personne, c'est plutôt à la politique et aux décisions, aux mesures qu'il vote à l'Assemblée. Donc déjà, cette première contradiction du fait qu'on a quelqu'un qui, à l'Assemblée, a contribué à détricoter les solidarités, a contribué à affaiblir les protections, dont bénéficiaient les Mulhousiens et les Mulhousiennes, et qui après veut se poser effectivement en sauveur en quelque sorte de la ville, en tout cas en rassembleur pour essayer de s'attaquer aux maux qui affectent les Mulhousiens. Donc ça nous a paru un peu en décalage, donc une certaine forme aussi d'illusion qui était entretenue par le député. Et surtout aussi, nous ce qu'on disait, c'est que notre action et notre démarche même de se présenter aux élections dans le cadre d'un scrutin à nul autre pareil inédit avec les circonstances du Covid, c'est pas anodin. Donc on doit pas être guidé par les circonstances, mais on doit surtout avoir une cohérence, une ossature. Et c'est avant tout ça qu'on souhaitait faire passer comme message, c'est de dire restons droit dans nos bottes, portons les grandes idées que nous avons défendues lors de ce scrutin du premier tour, et contribuons à les enrichir à la lecture de cette crise qui amplifie finalement la situation dramatique que vivent beaucoup de Mulhousiens et de Mulhousiennes, l'accentuation des fractures, les inégalités sociales et de santé, le diagnostic qu'on avait posé, on avait aussi proposé des mesures pour y répondre. Voilà, il n'est pas question de fusionner avec des listes de droite, quand bien même il y aurait, d'après certains, une nécessité d'union sacrée. On sait où ça mène, hein, pour parler franchement, si c'est pour se rassembler et qu'ensuite, au moment de l'élection, les semaines qui suivent l'élection, on se divise, on se déchire sur les premières mesures à prendre. C'est pas la peine, ce sera du théâtre, et donc nous, on ne souhaite pas rentrer dans le
jeu. Dans votre réponse au député, qui est public, hein, vous faites un peu ce parallèle entre la crise sociale et la crise sanitaire. En gros, je lis que vous dites, notre vulnérabilité est le fruit d'une destruction connue des milieux naturels et surtout d'un affaiblissement sans précédent de notre système de santé où les logiques de rentabilité ont été sans pitié. C'est-à-dire que On est encore dans le prolongement. Il y a le Covid, on y reviendra sûrement, mais il y a aussi la politique sociale, économique qui a été menée depuis l'élection de Macron, que vous mettez ici en cause.
Oui. Il y a forcément effectivement une forme de désaveu et de désappointement par rapport aux mesures qui sont prises par le gouvernement, par la Macronie, mais il y a aussi surtout le fait qu'on a des élus qui sont en place depuis 10 ans, 15 ans pour certains, et qui n'ont pas attendu Macron pour soutenir des mesures tout aussi régressives. Voilà, à l'échelle de la région, à l'échelle du territoire, on parlait des difficultés du système de santé. Ben, sur le territoire, ça a été aussi un dépeçage en règle de la couverture de l'offre hospitalière pour les habitants, donc un service public hospitalier qui a été détricoté aussi. Et voilà, et cette crise, elle a fait finalement que mettre, encore une fois, les projecteurs sur ces difficultés-là que vivent au quotidien les gens. Donc c'était une forme aussi de dénonciation d'une politique régressive qui ne va pas dans le bon sens, parce que la mise en concurrence des vies, la mise en concurrence des territoires, c'est destructeur, c'est plus le modèle à suivre. Il faut au contraire retisser les solidarités, retisser les liens. Il faut dépenser de l'argent au service justement d'une unité sociale, d'une utilité écologique aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir.
Très bien. En réalité, l'appel de Bruno Fuchs n'a été entendu par personne, parce qu'il n'y a pas eu de réaction. Alors, à moins que la fusion de la liste Millon et Vienne serait le fruit ou la réponse à cet appel, mais ça me semble plus être de l'opportunisme politique.
Oui, je pense que ce qu'on a pu voir sur la fusion des listes pro-Macron, l'une officielle, l'autre dissidente, ça révèle tout simplement une opération de sauvetage. Sauvetage, encore une fois, Bruno Fuchs, dans son appel, veut aussi sauver les meubles, veut faire parler de lui par ricochet de la liste sur laquelle il figure encore. Et Madame Yenne fait de même, c'est-à-dire qu'elle souhaite sauver son poste. Voilà, ça n'honore pas franchement la politique locale. On en a assez des mêmes qui sont par ailleurs dans une assemblée départementale de droite, pour Madame Millon et pour Madame Yenne. Elles ont été tout aussi comptables des décisions qui ont été prises avec Jean Rottner auparavant. Donc très franchement, ce rabibochage, cette opération de sauvetage de dernière minute, c'est pas ça qu'attendent les Mulhousiens, c'est pas ce qui va répondre aux difficultés du quotidien.
La crise du Covid a été l'occasion pour le maire, la maire et son mentor Jean Rottner, d'essayer de surfer un peu sur cette crise pour se remettre un peu en selle vis-à-vis des Mulhousiens, en montrant une certaine activité. Vous redoutez que cette période longue entre les premiers tours et le second tour ait pu permettre à l'équipe sortante de se refaire un peu une santé, son jumeau.
C'est compliqué de répondre. Alors moi, beaucoup auraient tendance à dire oui, on craint effectivement la focalisation médiatique sur les personnes de Jean Rottner et dans une moindre mesure de Michel Lutz, ici à Mulhouse. Sauf que moi, je considère que les électeurs, tous ceux qui iront voter pour le second tour des élections municipales, ou même ceux qui resteront dans l'abstention par ailleurs, feront la part des choses. C'est-à-dire qu'ils se diront « Oui, j'analyse les 6 ans écoulés, j'analyse la politique menée à la lecture d'un mandat dans son intégralité, et surtout, je n'oublie pas donc ce qu'ont été les décisions, les non-décisions des gestionnaires de crise, voilà, sur lesquels je ne tire pas. Parce qu'être gestionnaire de crise, quand la tempête est forte, c'est compliqué. » Et il serait un peu prétentieux de dire qu'on ferait mieux dans pareille situation. Donc j'en fais pas le reproche, en tout cas pour la gestion de crise des mois de mars et avril, à l'équipe sortante. Simplement, bien sûr, depuis ce à quoi on a assisté, c'est une forme de continuation de l'hyper-médiatisation et de l'hyper-communication, surtout, la majorité sortante, qui écrase un peu le débat public, et une espèce aussi de mise en scène assez terrible, à savoir que Madame Lutz se plaint du fait que ses opposants lui reprochent chacune de ses actions qu'elle prendrait au service de l'intérêt général. Donc là, il y a un côté un peu pervers dans cette analyse, et nous, on dit que pour que la démocratie puisse perdurer, il faut que, effectivement, toutes les voix puissent être entendues, et le plus vite possible, à égalité. Voilà. Et il va falloir qu'effectivement, on ait des propositions fortes pour donner le change aux inconséquences qui ont été celles de l'équipe sortante de la majorité Lutz-Rottner.
On va y revenir sur les propositions, mais pour essayer d'aller... Parce que cette volonté de faire une communication à partir de la crise, à partir de... y compris comme le président de la République a invoqué des propos guerriers qui sont totalement inappropriés, évidemment. Mais est-ce que ce ne serait pas... Est-ce que ce n'est pas une possibilité quand même pour l'équipe sortante de masquer toute leur responsabilité, non pas dans la crise du Covid, mais dans, par exemple, l'affaiblissement profond de l'hôpital. Jean Rottner est le président du conseil de surveillance qui a pris les décisions de fermer des hôpitaux à Thann, à Elkirch, au niveau de l'ARS, qui a contribué à ne pas relancer, à ne pas écouter les urgentistes dont il était. Et qui se plaignait de ne pas avoir les moyens. Est-ce que tout ça peut être comme ça, oublié parce qu'il y a eu une crise ?
Non, bien sûr, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas passer ça sous silence. Il faut pointer du doigt la contradiction folle qui pourrait se résumer en une formule, c'est-à-dire c'est l'hôpital qui soude la charité, là aussi. Quand on regarde effectivement les décisions, ou en tout cas l'absence d'action pour défendre la couverture hospitalière, pour défendre le service public hospitalier de Jean Rottner et par extension de la majorité, des majorités de droite aux différents échelons dans toutes les collectivités départementales, locales, régionales. Il y a juste à se remémorer finalement l'exemple de l'ARS, l'Agence régionale de santé, création de l'UMP, dont était membre M. Rottner à l'époque. Voilà. Est-ce que les décisions qui ont été prises par le directeur pendant toutes ces années, qui ont contribué à affaiblir l'offre hospitalière, avec la suppression des lits, avec la suppression de certaines unités médicales, avec la suppression des maternités, de la Kirch, de Thann, petit à petit. Donc tout cela, tout cet affaiblissement n'a pas été dénoncé, n'a pas été mis en cause par, effectivement, Jean Rottner, par les élus de droite du territoire, de manière globale, même si certains ont fait savoir leurs différences, de manière peut-être... pas aussi fort qu'on l'aurait souhaité. En tout cas, voilà, il ne s'agit pas de passer ça sous silence. Il faut le mettre en avant, il faut le dire, il faut les mettre devant leurs responsabilités. Quand bien même l'élection municipale ne se résumera pas à cette question de l'hôpital, mais aussi de la prise en charge de manière plus globale et à plus ou moins long terme. Et là aussi, je pense qu'il y a une grosse faute. C'est qu'on est incapable, ici, sur le territoire, de prévenir les pollutions, de lutter contre les problèmes sanitaires dont... auxquels font face les habitants de Mulhouse. Donc ça, c'est aussi une question qui doit nous inquiéter au premier chef.
Alors, venons-en aux élections proprement parler. Il y a quadrangulaire, ce qui est... Vous n'avez pas été approché par d'autres listes pour fusionner
Si, on a été approché, bien sûr, oui. Donc ça n'a échappé à personne que Laramion avait tenté un rapprochement. Donc voilà, on a tout de suite dit non. Hein. C'était le soir du premier tour. On a dit net, c'est un reniement des valeurs, c'est une contradiction folle, c'est tout simplement un bricolage, une alliance de briques et de brocs. C'était totalement à l'opposé du choix qu'on avait fait collectivement. Et puis surtout... C'était se dédire par rapport au projet qu'on a porté devant les Mulhousiennes et les Mulhousiens, un projet de rupture. Madame Mignon n'incarne pas un projet de rupture. Elle a terminé troisième. Elle est désormais obligée de sauver sa campagne comme elle le peut. Voilà, nous on souhaite que la dynamique, le fait d'être arrivé second, installe finalement une forme de duel un peu classique. On peut le dénoncer, mais en tout cas, sur les thèmes, ça va être fort, dans la mesure où justement on aura le choix entre la continuation d'une politique de mise en concurrence, une politique de droite néolibérale qui perpétue l'illusion du tout numérique, ou alors un choix clivant, certes, mais totalement assumé, de rupture, de gauche, écologiste, au service du territoire, pour justement penser les plaies du territoire mulhousien.
D'ailleurs, c'est regarder un peu, puisque là on sait maintenant aujourd'hui comment les listes sont constituées dans d'autres villes, il y a comme une tendance, un retour à une sorte d'identification claire entre gauche et droite, très souvent menée d'ailleurs par les écologistes, ça ne vous a pas échappé ici à Mulhouse, mais on a vu on le voit à Lyon, on le voit même à Strasbourg, où l'ARM s'allie à la droite. Et donc on revient un peu à le nouveau monde, en fin du compte, s'illustre quand même par des affrontements entre des valeurs différentes sur lesquelles on peut mettre gauche et droite semble bien être un identifiant compréhensible et qui le même temps ne fonctionne pas encore.
Ah non, mais je pense que ce sont les derniers masques qui sont en train de tomber, et si ça a échappé à certaines personnes, ben voilà, la situation est claire. Dans la plupart des grandes villes où un second tour aura lieu, la République En Marche tombe dans les bras des Républicains, de la droite, classique et rétrograde. Donc voilà, la situation est claire maintenant. Hein, en tant qu'écologiste, on a envie de dire que c'est soit une coalition, c'est soit une coalition justement de progrès au service à la fois évidemment des habitants des territoires, au service du mieux-être, de la qualité de vie, au service également de la lutte contre la pauvreté, soit une coalition anti-climat, une coalition classique qui veut exacerber les concurrences et la différence entre les habitants. Donc c'est clair que le clivage droite-gauche reste opérant, mais il se lie différemment, c'est-à-dire que maintenant c'est l'écologie qui sert de boussole. Et souvent dans les grandes villes, on a l'impression que c'est plus ça devient le péril vert qui inquiète beaucoup d'élus à la fois En Marche et de droite, rabibochés, en tout cas qui se rabibochent les uns les autres. Donc voilà, le péril vert, et avec des caricatures qui sont faites sur la menace, le fait que ce seraient des élus incompétents, que les territoires perdraient de leur attractivité, quand bien même il s'agirait que de considérer nos territoires à l'aune de l'attractivité, du fait d'attirer des entreprises et autres. Donc voilà, c'est révélateur aussi d'une certaine attitude totalement dépassée, désuète en 2020.
Pour l'instant, à Mulhouse, la campagne n'a pas véritablement démarré. D'ailleurs, on va en parler un peu. Comment voyez-vous, comment mener campagne dans ces circonstances étranges qu'on n'a jamais connues? Votre adversaire, c'est bien l'équipe sortante, c'est elle qui... C'est-à-dire, en quelque sorte, la campagne se déroulera entre eux et vous.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que l'équipe sortante est aux manettes, détricote tout ce qui pouvait rester de mécanismes de solidarité, tout ce qui pouvait faire sens pour Mulhouse et les Mulhousiens, tout ce qui... ou alors n'agit pas, quand il s'agit par exemple d'écologie ou même de solidarité. C'est à eux qu'on s'adresse, c'est à eux qu'on va reprocher une inaction, c'est à eux qu'on va reprocher le creusement des inégalités sociales et de santé, et le fait d'avoir laissé finalement cette population confrontée à un danger latent. Donc il faut installer une forme de duel pour que les choses soient claires et pour que les Mulhousiens se disent qu'ils ont enfin l'opportunité de changer à la fois les pratiques, le personnel politique, et enfin donc la manière dont la ville sera, en tout cas la politique de la ville sera conduite. Donc voilà, on a besoin de respirer, on a besoin de reconsidérer l'ensemble de vos politiques publiques. Et cette équipe qui, durant 12 ans, a poursuivi tout simplement une forme d'hypercommunication et a multiplié les mesurettes d'apparat, doit s'en aller.
Bon, on a quand même on a l'impression qu'ils font la même analyse que vous, c'est-à-dire qu'ils ciblent bien leur adversaire principal, et on l'a vu avec ce début d'échange qu'il y a eu autour du plan vélo, du plan où ils mettent en avant qu'ils vont beaucoup investir dans le plan vélo. Vous avez réagi. Est-ce que vous pensez que ce sera ça l'affrontement principal entre l'équipe sortante et vous? Ça sera autour du transport, de l'aménagement et plus particulièrement du schéma d'organisation du vélo.
Non, ce ne sera pas l'unique sujet, simplement c'est le révélateur de beaucoup de dysfonctionnements. C'était assez caricatural de voir que c'était une mesure qui a été préconisée notamment par les autorités pour faire face à la situation de crise sanitaire qu'on vivait, pour favoriser la distanciation, pour prévenir la désaffection des transports en commun. Et donc, les autorités publiques, notamment un organisme d'aménagement qui s'appelle le CEREMA, qui produit des documents très détaillés à destination des collectivités, avaient tout simplement rendu public certaines notes et certains principes d'aménagement qui n'ont tout simplement pas été respectés. Nous, on a reproché l'absence d'anticipation, c'est-à-dire qu'on aurait souhaité, dès le 11 mai, en sortie de confinement, que des mesures soient prises, sur ce sujet comme sur d'autres. D'ailleurs, on avait fait des propositions au moment du confinement très précise sur la question du marché pour redonner un soutien à nos producteurs, pour permettre aux gens de s'alimenter, pas uniquement dans les grandes surfaces ou même dans les petites supérettes qui appartiennent à des grands groupes. Voilà, par rapport également au gel des loyers qui n'a jamais été envisagé une seule seconde, alors qu'on sait très bien que des familles se sont retrouvées en situation quand même très compliquée en ce qui concerne les bons alimentaires, avec des familles qui ont dû effectivement subvenir aux besoins alimentaires pour leurs enfants, étant donné la fermeture des cantines. Donc toutes ces mesures de bon sens qu'il fallait prendre n'ont pas été prises, et ça, on l'a reproché. Alors effectivement, la question des aménagements cyclables temporaires, elle a été exploitée à des fins de communication par la majorité sortante, et qu'on va sortir, et ça a été finalement assez révélateur, à la fois d'une forme d'incompétence sur les sujets, avec un mélange à la fois des termes en parlant d'aménagement pérenne alors qu'il est uniquement question d'aménagement temporaire, avec une communication qui devait être uniquement celle du moment et qui s'est transformée en propagande électorale, puisque en faisant des annonces pour l'été, ce qui d'ailleurs du point de vue du code électoral est franchement limite. Donc voilà, donc on n'a pas voulu laisser passer ça, on a dû réagir un peu au tac au tac pour ne pas perdre le change, et surtout cette tentative honteuse de verdissement de la part d'une majorité qui sent bien que c'est une préoccupation grandissante à travers la population, elle montre bien qu'en l'espace de 2 semaines, ils ont essayé d'en faire plus qu'en 6 ans. Donc voilà. Et le constat, il peut se faire également, je le disais tout à l'heure, sur la question sociale. Quand nous, on propose le revenu minimum social garanti, quand on propose une expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, pour coller aux réalités et aux souffrances qui sont celles des Mulhousiens, en place, on n'a rien. On a le vide sidéral en matière d'action sociale. Voilà, et on le déplore.
Vous avez sûrement pas échappé qu'en Espagne, on commence à réfléchir sur, pourquoi pas, la mise en place d'un revenu universel pour garantir aux plus pauvres au moins une couverture générale. Quoi. Oui. Alors évidemment, c'est difficile au niveau à l'échelle d'une ville d'envisager cela. Néanmoins, cette crise a aussi mis en évidence que la grande pauvreté, peut-être qu'on ne sait pas encore tout d'ailleurs, en tout cas les associations étaient bien démunies à un moment donné, et est-ce que ça ne vous conduit pas aussi à avoir une argumentation peut-être dépassant le cadre de la ville, mais pour avoir une politique sociale plus audacieuse au niveau national, voire au niveau régional?
Bien sûr. Je pense que la question, par exemple, du revenu universel, Elle a été largement portée, notamment par la plateforme qui est parvenue à unir initiatives syndicales, des ONG environnementalistes, l'initiative notamment de la CGT, d'ATTAC, de Greenpeace et d'autres organisations qui ont souhaité justement avoir ces réponses pour l'après et pour prévenir, amortir les chocs, notamment social, le choc social à venir. Et les réponses, elles passeront effectivement par des changements au niveau législatif. Donc, bon, hélas, il va falloir attendre encore jusqu'en 2022. Mais il s'agit dans toutes les villes que la gauche et les écologistes vont pouvoir conquérir d'une certaine façon. Il va falloir engager un rapport de force auprès de l'État pour avoir les moyens d'une politique publique à la hauteur pour justement subvenir aux besoins de ceux qui sont mis en situation de grande précarité et pour prévenir des douleurs qui sont déjà bien installées, bien vivaces hein, et qui risquent de s'accentuer. Donc voilà, pour ne pas encore creuser ces inégalités, il faut avoir des réponses fortes. Donc ce rapport de force, il va falloir l'engager. Il va falloir aussi que d'ici 2022, les gauches et les écologistes parviennent à s'entendre pour peser et pour enfin créer une plateforme de changement et ne pas nous installer dans ce duel mortifère entre macronistes et extrémistes de droite.
Donc vous considérez que ces municipales sont également une base de reconstruction, je dis bien une base de reconstruction d'alternatives politiques plus globales et que l'échelon de la ville est peut-être celui où peuvent au mieux se construire des alternatives.
On pourrait se construire des alternatives. Alors, il n'a pas échappé à tout le monde que les collectivités aujourd'hui sont relativement méprisées, en tout cas n'ont pas les moyens de leur politique, hein, donc avec la baisse des dotations. Donc par rapport à ça, il va falloir qu'on soit clair aussi. Les dotations doivent augmenter. On doit abandonner le pacte de Cahors qui était une contrainte.
Le pacte de Cahors
qui diminue là encore les possibilités, qui réduit les possibilités d'action des collectivités. On l'avait dénoncé parce que c'est un scandale. Le fait de passer contrat avec l'État pour dire qu'on s'engage à réduire le volume de nos dépenses, c'est pas quelque chose qui permet justement une capacité d'action locale. Et je pense que la question aussi du transport public, qui aujourd'hui manque de ressources en lien avec la crise, mais quand il s'agira d'envisager par exemple la gratuité des transports, ben, on devra demander, exiger à l'État des moyens supplémentaires. Et à l'Europe également au passage. Bien que l'Europe d'ailleurs semble davantage prête à contribuer au financement des réseaux de transport. Donc c'est des exemples qui montrent que les collectivités doivent pas seulement, on ne doit pas faire peser davantage de contraintes sur les collectivités, on doit aussi leur donner les moyens de prendre en charge les réalités de terrain auxquelles elles sont confrontées quant à la pauvreté ici à Mulhouse, hein, avec 30% de personnes sous le seuil de pauvreté et à des enjeux liés évidemment à la qualité de vie et à la lutte contre les pollutions de manière générale.
C'est-à-dire que, comme on le voit en Allemagne, où les communes sont aujourd'hui très exigeantes à l'égard de l'État fédéral, en disant « il nous faut des moyens », cette crise est peut-être aussi de nature à modifier la politique, ou devrait modifier la politique du gouvernement en matière de décentralisation, en matière de moyens mis à disposition des collectivités.
Oui, poursuivre, amplifier une décentralisation assortie de moyens, et pas seulement une décentralisation dans les mots, pas seulement des compétences nouvelles sans les moyens adéquats qui vont avec. Hein. Donc c'est ça qu'il faut exiger. Et en même temps, il faut aussi faire savoir à l'État que ce n'est pas le dogme austéritaire qui doit dominer. Il faut, à un moment donné, il faut qu'on ait les moyens de notre politique, et donc il faut, par exemple, faire tourner la planche à billets à nouveau. Il faut arrêter d'être prisonnier des contraintes budgétaires qu'on nous fait peser, que ce soit au niveau, évidemment, de la BCE, de l'Europe, ou au niveau également de Bercy. Donc il y a tous ces leviers doivent être actionnés dans le sens, justement, d'une action plus forte des collectivités locales au service du plus grand nombre.
Non, il y a trois petites semaines avant le deuxième tour des élections municipales, qui se passe dans une situation donc tout à fait différente. On est n'y a plus la lancée du premier tour, il faut recommencer toute une campagne dans des conditions complexes. Comment Mulhouse Cause Commune envisage cette relance de la campagne électorale?
Bon, alors, les contraintes, elles sont un peu connues de tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'organiser de réunions publiques, de meetings, de grands rassemblements, de grands regroupements. Donc, forcément, ça met en cause un peu les habitudes qui étaient celles des campagnes électorales classiques. Ça va un peu aussi déshumaniser nos campagnes et la manière de faire campagne. Donc, certes, passer par le numérique, avec l'organisation de live Facebook, l'utilisation de capsules vidéo, les réseaux sociaux, j'en ai parlé, le site internet, mais aussi...
Vous en faites d'ailleurs pas mal
de rencontres
virtuelles.
Mais aller au-delà de ça, peut-être communiquer davantage en utilisant la presse aussi, qui peut être un support. L'organisation des débats qui sont prévus, qui vont avoir lieu également. Et un autre aspect, c'est peut-être aller à la rencontre en comité restreint, sur les terrains, pour rencontrer les acteurs du terrain et leur dire de se mobiliser. Et j'en profite pour dire que si on veut effectivement avoir ce changement, cette rupture franche, ici à Mulhouse, pour une ville en commun, il va falloir que non seulement nous prenions notre part, mais que tous les acteurs associatifs, toutes les organisations qui prêchent souvent un peu dans le désert, puissent, ces derniers temps, puissent en tout cas participer de cette dynamique. Voilà.
Et on constate une grande défiance quand même à l'égard du politique, et cette crise de la Covid a largement conforté cette on le voit, les baisses de popularité du gouvernement, du président de la République sont quand même assez importantes, sans qu'absolument d'autres partis ou d'autres formations en bénéficient, alors qu'il y a un grand mécontentement. Et est-ce que là, comment pensez-vous mobiliser un peu sur ce terrain où on rencontre beaucoup, au niveau de la presse, on rencontre beaucoup de monde, des associations, et rarement on a pu entendre des gens aussi déçus par la politique. Comment, selon vous, leur faire comprendre ou leur faire comprendre, d'autres termes, que l'échelon local est bien un moyen de reconquérir autre chose que ce que la Covid nous a démontré, c'est-à-dire quand même un état défaillant, des guides, des digues de protection inexistantes, enfin bref, quelque chose d'assez dramatique pour beaucoup.
Bon, c'est une question assez large, hein, mais je pense qu'il y a un mot qui peut résumer la chose, c'est la co-décision. C'est-à-dire qu'il faut partager. Pour de bon, cette fois-ci, la décision avec tous les acteurs de terrain qui sont confrontés aux situations sur lesquelles finalement le politique est amené à trancher et amené à se prononcer, mais souvent sans vraiment connaître les réalités qui sont celles du terrain, donc en tout cas vécues dans leur chair parfois par les personnes. Donc ça pose la question de la démocratie locale aussi et de la manière dont on va associer les gens. Donc nous, on avait proposé, au moment de la gestion de crise, on avait proposé une grande concertation avec tous les acteurs, les forces politiques, représentées ou non représentées d'ailleurs, au sein du conseil municipal ou même au sein du conseil d'agglo, également les associations, les forces syndicales, les forces patronales, tous les corps intermédiaires qui ont quelque chose à dire, qui ont des propositions à faire, qui auront contribué d'une manière ou d'une autre à la gestion de crise et à la sortie de crise. Et voilà, c'était une manière peut-être aussi de sortir par le haut de cet épisode douloureux pour Mulhouse particulièrement. Donc je pense que c'est davantage dans le fait d'associer à la décision, pas seulement à la concertation, parce que ça, tout le monde le dit, c'est finalement quelque chose dont on nous rabat sans cesse les oreilles. Il faut concerter, il faut davantage de concertation, de co-construction, mais il faut surtout de la co-décision. Il faut maintenant que enfin les gens puissent avoir vos chapitres. On propose par exemple, nous, d'organiser des référendums locaux, des consultations ouvertes également aux personnes étrangères, organiser aussi, mettre en place pardon, un conseil des habitants qui aurait possibilité d'interpeller directement le conseil municipal. Donc on pense que modestement, ce sont des petites choses qui vont permettre de faire progresser peut-être la confiance envers les décideurs. Donc bien sûr que les mensonges d'État, ce qu'on a pu voir comme absurdité ces derniers temps, ça ne participe pas de la restauration de la confiance, et qu'on a très bien vu les limites d'une 5e République à bout de souffle, d'une monarchie présidentielle tristement incarnée. Et c'est tout un système qu'il faut refonder, qu'il faut repenser. Il y a aussi l'idée de déborder les structures partisanes, les partis politiques, qui aujourd'hui, quand bien même ils sont remis en cause parfois par certains, répondent quand même à des problématiques spécifiques, alertent sur les dangers que court la démocratie, que court par exemple le dialogue social. Mais il faut aller au-delà, il faut vraiment qu'on arrive à associer le maximum de gens dans la prise de décision. C'est pas un travail simple à faire, il y a aussi un désintérêt de la chose publique, un manque d'intérêt pour ce qui fait le collectif. Mais là, on peut aussi faire le reproche à la majorité de droite, y compris au gouvernement, d'avoir cultivé l'individualisme, exacerbé finalement une forme d'ignorance de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. Mmh. Voilà, en mettant en concurrence à la fois nos vies, nos tranches de territoire, et puis parfois l'intime. Mmh.
Dernière question, la formidable solidarité qu'il ne faut pas non plus idéaliser, mais quand même, par exemple envers les personnels de santé, mais également la tout d'un coup découverte qu'il y a, tiens, il y a des gens qui vident des poubelles, il y a des gens et qui sont importants pour la cité. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut, ou du moins un terrain sur lequel vous êtes plus à l'aise que peuvent l'être d'autres?
Oui, bien sûr. On avait, entre nous, en discutant, on avait tout de suite pointé du doigt la contradiction qui consistait à applaudir les soignants tous les soirs à 20h. Et puis après, finalement, pour une partie, les mêmes qui applaudissent, finalement, vont voter, en tout cas pour des personnalités qui, à l'Assemblée, vont réduire les dépenses de santé, etc. etc. Donc, bien sûr, il faut dépasser ça. Il faut aussi se dire que tous ces gens, tous ces premiers de corvée qui ont permis au pays de tenir, hein, de ne pas sombrer dans le chaos, on leur doit maintenant, enfin, et pour de bon, on leur doit une fière chandelle et on doit les rémunérer correctement. C'est pas simplement de la charité, de l'obol dont ils ont besoin. C'est une vraie revalorisation salariale, c'est une vraie considération des métiers, c'est une vraie prise en compte de la pénibilité. C'est toutes ces choses qu'il s'agit de faire évoluer pour aller dans le sens de davantage de justice sociale et de partage d'un intérêt commun. Donc voilà, quand on a des professions, par exemple, féminisées comme les hôtesses de caisse, comme les soignants, donc soignantes, comme d'autres métiers encore, qui sont confrontés de plein fouet à une telle crise et qui parviennent à prendre sur leurs épaules la difficulté du moment, moi je me dis chapeau bas, et je me dis par contre mais quelle misère de voir la réponse qu'on y apporte finalement, le pot de considération à travers des primes qu'on souhaite déjà saucissonner, catégoriser pour ces personnels. Et c'est là le drame, c'est là le côté déshumanisant, désespérant. Donc un jour effectivement faudra pas s'étonner que ces mêmes personnels baissent les bras et arrêtent tout simplement de servir le pays, de sauver des vies. Donc, face à la non-prise en compte de toutes ces problématiques, donc on leur doit considération et surtout revalorisation salariale, bien sûr.
Très bien. Merci beaucoup, Loïc Minéri, pour cet entretien. Et nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici le 24 juin, je crois que c'est bien ça la date.
Merci. 28 juin.
28 juin, oui.
Avec plaisir. Merci.